Vous écoutez France Inter, il est 18h17.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir Cyril Dion, l'auteur et co-réalisateur du film Demain. Il y a 3 ans, il a redonné le sourire à bon nombre de nos concitoyens en suscitant une multitude d'initiatives en faveur de l'environnement. Un phénomène unique dans l'histoire du cinéma qui a donné lieu à un appel, l'appel du monde de demain, signé par plus de 100 000 personnes à l'époque, et à une tournée de chanteurs l'an dernier, le tout immortalisé dans un livre de photos qui sortira d'ici quelques jours ou quelques semaines, Le chant des colibris aux éditions Actes Sud, on en parlera. Aujourd'hui, Cyril Dion vient également de boucler Après-demain, un autre documentaire dans lequel il revient sur ce qui a pu inciter de nombreux Français à prendre leur destin en main. Un film dans lequel il s'interroge aussi sur la nécessité d'associer à tous ces projets le monde politique et le monde de l'entreprise. On y reviendra. Également au sommaire de cette émission, préparée par Simon Arestat et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec notamment un reportage auprès des antispécistes. Et puis, comme toujours, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, les confitures rebelles ou comment lutter contre le gâchis alimentaire tout en redonnant du travail à des personnes éloignées de l'emploi. À 19h20, au téléphone sonne, quel engagement citoyen pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous pourrez poser vos questions à Cyril Dion et lui, qui sait? Si vous vous êtes inspiré de son film dans votre vie quotidienne, Isabelle Delannoy, auteure de L'économie symbiotique, nous rejoindra également pour en parler. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Cyril Dion.
Bonsoir Claire.
Bienvenue à France Inter. Merci d'être avec nous ce soir à l'occasion, je le disais, de la sortie d'un livre, Le chant des colibris, chez Actes Sud. La prochaine diffusion également sur France 2 d'un nouveau film baptisé Après-demain. On va revenir sur tout ça, mais peut-être pour ceux qui l'auraient oublié ou qui seraient passés à côté, hypothèse d'école. Hein, bah oui, un rappel, votre film Demain, réalisé avec Mélanie Laurent, est sorti il y a un petit peu moins de 3 ans. C'était en décembre 2015. Il a été vu par 1 200 000 spectateurs, ce qui pour un documentaire est exceptionnel. Il a même reçu en 2016 le César du meilleur documentaire. Et puis, il a continué à vivre de différentes façons à travers de multiples initiatives. J'imagine que pour vous, c'est ça la plus belle des récompenses? Que ce film continue à vivre de cette façon?
Ben oui, pour nous deux. Je pense que et Mélanie et moi, on est tout le temps bouleversés du retour que nous font les gens. Des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « ça a changé ma vie, j'ai changé de métier » ou des étudiants qui nous disent « ben, je ne sais pas quoi faire et maintenant je veux mettre toute mon énergie au service de réparer les crises écologiques ou climatiques ». Oui, ça continue. Moi, ça m'arrive tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Il est sorti dans 30 pays. Là, je reviens de Chine où on réfléchit à faire un demain chinois, c'est-à-dire avec des initiatives chinoises pour les Chinois, puisque la problématique est énorme là-bas et que même si on fait tous les efforts qu'on veut en France, s'il ne se passe rien en Chine et en Inde, ça risque de ne pas suffire. Donc oui, bien sûr, on est très fiers d'avoir pu vivre ça au moins une fois dans notre vie, d'avoir pu faire une différence dans la vie d'un certain nombre de personnes.
Des personnes, individus, mais aussi des collectivités, des entreprises.
Oui, notamment, on parle dans Après-demain, là, qui est un film que j'ai fait avec une journaliste qui s'appelle Laure Noyla, qui elle est allée enquêter, puisque c'est pas nous qui allions aller enquêter pour demander aux gens, alors dites donc, ça a changé votre vie, notre vie. Donc elle est allée enquêter un peu sur l'impact que ça avait pu avoir, toutes ces personnes qui se sont mises à agir après avoir vu le film. Et on a notamment le témoignage d'Anne Hidalgo qui dit que pour le plan climat, qui est un des plans climat les plus ambitieux d'une ville française qui est en train d'être votée, une de ses grandes inspirations c'est demain. Donc 1400 km de pistes cyclables, 100 hectares de végétalisation dont 33 d'agriculture urbaine, interdiction du diesel à partir de 2024, des moteurs thermiques à partir de 2030, avec toutes les polémiques que ça engendre en ce moment sur le fait que c'est le bazar dans Paris, qu'il y a des embouteillages.
Alors ce documentaire, ce film Après-demain, il sera là, il n'ira pas en salle, il sera diffusé sur France 2, c'est ça, au mois de décembre,
oui.
Sans doute.
Bah c'est un projet qui est beaucoup plus modeste que demain, hein. C'est-à-dire que c'est un film qui a été prévu pour une soirée spéciale. Avec demain à 20h50 et après-demain et une sorte de post-scriptum où on est allé justement à la rencontre de toutes ces personnes pour voir quel avait été l'impact et puis pour se poser quelques questions complémentaires. Comment est-ce qu'on change d'échelle? Pourquoi est-ce que demain a si bien marché? Et je m'intéresse notamment beaucoup à cette notion des récits et des histoires. Et puis, est-ce qu'il faut s'engager dans des actions plus collectives, plus politiques?
C'est une vaste question dont on va avoir évidemment l'occasion de parler pendant ces deux heures. Mais pour revenir encore à ce film, Demain, pour rappel, c'était la lecture d'un article qui vous avait interpellé et qui vous a amené à écrire ce film, c'est ça? C'était en 2012 un article très inquiétant sur l'avenir de la planète, c'est ça?
Oui, en fait c'est une étude qui a été publiée par 22 scientifiques du monde entier, coordonnée par deux scientifiques qui sont au début de Demain, qui est des universités de Stanford et Berkeley, et qui disait en substance que si on additionnait toutes les problématiques qu'on a en ce moment, c'est-à-dire changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, déforestation, augmentation des inégalités, on pourrait arriver à une sorte de point de bascule qui nous conduirait, d'ici à la fin du siècle, à un possible effondrement systémique des écosystèmes et potentiellement à une disparition d'une partie de l'humanité. Donc effectivement, en lisant ça,
c'est pas juste un détail, quoi.
Je me suis dit non, et puis je me suis dit c'est assez dingue quand même que cette information soit aussi peu relayée. On en a finalement peu parlé. Une des journalistes qui en a le plus parlé, c'est Laure Noyla, avec qui j'ai fait Après-demain, qui s'est en gros roulée par terre pour que son rédacteur en chef mette ça à la une de Libération. C'était en plein mois d'août, il y avait rien d'autre, donc il a dit bon, allez d'accord, on n'a qu'à parler de la fin possible d'une partie de l'humanité. Mais sinon, très peu de choses. Et on voit là, dans tous les flash infos qu'il y a dans toute une journée, à la radio, à la télévision, tous les quotidiens, finalement, cette information-là était relativement peu relayée. Et c'est en train de changer. Si on regarde comment ça s'est passé pendant cet été, par exemple, on voit que les médias se sont largement emparés de la question climatique et sont en train de mettre en évidence le fait que cette crise est absolument centrale pour l'avenir de l'humanité et qu'il n'y a pas tellement de priorités plus importante.
Il faut du temps pour faire passer le message. Mais parce que ça fait quand même au moins 40 ans que les
scientifiques alertent. Il a commencé à y avoir des livres à la fin des années 40. Et puis le rapport Meadows, ce fameux rapport qui a inspiré aussi celui du Club de Rome en 1972, disait à peu près exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Donc on voit que ça prend du temps.
Donc vous avez réussi à faire passer le message à travers ce film. Bravo, on va évidemment en reparler, Cyril Lion. Mais on va passer, comme tous les vendredis, à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en ondes par Marianne Crimbaud. Au programme ce soir, Emmanuel Macron en champion du climat à New York, Manuel Valls à Barcelone et l'Aquarius, toujours au cœur d'un bras de fer entre pays européens. L'Aquarius, désormais privé de son pavillon. Enfin, bientôt.
C'est du jamais vu, c'est un scandale absolu. Ça ne s'est jamais produit, au moins depuis la guerre. Quand vous battez le pavillon d'un pays, ce pavillon ne peut vous être retiré que parce que soit vous ne respectez pas les conventions internationales, soit vous ne respectez pas les règles du pays. Or, en l'occurrence, l'Aquarius est un navire qui fait plus que respecter tout ça. Et quelque part, c'est une honte.
Francis Vallat, le président de SOS Méditerranée. Il ne décolère pas après la décision du Panama de retirer à l'Aquarius son pavillon. Décision prise sous la pression de l'Italie, de Matteo Salvini. Les 58 migrants à bord seront finalement transbordés sur d'autres bateaux avant d'être répartis dans plusieurs pays européens. La France en accueillera 18. Pour Emmanuel Macron, pas question de faire plus.
L'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes et elle ne réglerait pas durablement la situation.
La question migratoire au cœur de la future campagne des européennes pour laquelle Nicolas Dupont-Aignan voit grand, très grand.
Oui, j'ouvre grand les bras aux membres, aux sympathisants, aux électeurs du mouvement des Républicains comme du Rassemblement National.
Une proposition qui fait pchit pour l'instant, que ce soit du côté de LR ou du RN, même si à écouter Valérie Pécresse et Marine Le Pen, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons.
Ces fusionnistes sont les ennemis, profondément les ennemis de la droite républicaine.
Ils souhaitent mener cette aventure personnelle. Soit, c'est pas très grave, on se retrouvera au Parlement européen.
Les européennes, c'est au mois de mai, la prochaine présidentielle en 2022, mais il y a déjà un candidat déclaré, le député Jean Lassalle.
La dernière fois, je m'y suis pris trop tard. J'ai pris une tôle.
Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. C'est également ce que s'est dit Manuel Valls, qui rêve de devenir maire de Barcelone. Il est allé l'annoncer sur place, en catalan.
Oui, c'est le prochain alcalde de Barcelone.
Dans son fief d'Evry, on commençait à se demander où il était passé.
On n'entend parler de lui qu'en Espagne, alors qu'il est quand même rémunéré par les deniers publics.
Alors Manuel Valls a fini par se rendre à la raison.
Dès la semaine prochaine, j'abandonnerai mon mandat de député et toutes mes responsabilités locales.
À la rubrique « Nul n'est prophète en son pays », Emmanuel Macron, sacré champion de la Terre par les Nations Unies à New York.
Mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris.
La France ne respecte pas du tout ses objectifs.
L'astrophysicien Aurélien Barreau.
Pour être réellement un super-héros, bah, il va falloir effectivement faire preuve de bravoure. Combattre les lobbies, falloir prendre des mesures contraignantes.
Sinon, cette semaine, le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé pour le droit à la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. De quoi rebooster la manif pour tous.
Mais vraiment, qui sommes-nous ou qui serions-nous pour oser décréter que les enfants n'ont pas besoin de père?
À Marseille, cette semaine, création d'un syndicat des poussettes enragées.
Marseille est une cité interdite pour l'enfant. Quand on prend les transports collectifs, c'est pas du tout adapté aux poussettes. Une ville doit être pensée pour les générations futures.
Ce combat rejoint celui de l'APF France Handicap, qui a manifesté en fauteuil roulant pour protester contre l'inaccessibilité du métro de Paris.
Ça concerne la majorité de la population. Ça concerne les personnes âgées, ça concerne les familles, ça concerne les cyclistes. Donc l'accessibilité, c'est un investissement dans ce cas-là.
On termine en musique avec la Technoparade qui a fêté ses 20 ans samedi dernier dans les rues de Paris.
Non, ça n'a rien à voir avec les teufs qu'on fait le week-end. Le week-end, on se retrouve dans un bois, un groupe électrogène qui tourne. Là, il y a le musée du Louvre, on fait craquer du son, blam, 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 ça pète sur les bords de la Seine. Ça me plaît, ouais.
Voilà pour ce petit résumé de l'actualité de la semaine. Cyril Dion, qu'en avez-vous retenu?
Non, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, cette histoire de l'Aquarius. On parle de 58 personnes. Enfin, vous imaginez, quoi. La France en prend 18. Et Emmanuel Macron dit, bon, on va quand même pas faire plus parce que sinon, c'est l'extrême droite qui va nous tomber dessus. Là, l'ONU parle de 250 millions de personnes qui vont migrer d'ici 2050 à cause du réchauffement climatique. Et de toutes les conséquences que ça va avoir, conséquences géopolitiques, tensions entre les États, pays qui vont devenir invivable à cause des hausses de la température. Et là, on est en train de dire que 58 personnes, on peut pas les accueillir. Des gens qui sont en train d'essayer de traverser la Méditerranée, qui manquent de se noyer. Et on va enlever le pavillon du navire qui va les sauver. Enfin, je veux dire, il faut quand même être une humanité qui marche un peu sur la tête, quoi.
Et puis, j'imagine que c'est Emmanuel Macron, plus écologiste à l'étranger qu'à domicile, peut-être.
Le champion de la Terre, oui. Non, mais. Pourquoi pas, de toute façon, enfin, ce titre lui a été donné parce qu'il a organisé le premier sommet. Donc, bon, à la limite, il en est presque pas forcément responsable, mais il faut quand même se rendre compte. Là, quand Nicolas Hulot a démissionné, j'ai été interviewé par un certain nombre de médias en France, mais aussi à l'étranger.
On rappelle que c'était il y a un mois, jour pour jour, hein, le 28 août, on est le 28 septembre.
Et il y a un journaliste américain qui m'a dit, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer dans le leadership de la France par rapport au changement climatique? Et je lui disais, mais il y a vraiment que vous pour croire que la France a un leadership sur le changement climatique. Aujourd'hui, très clairement, si on voulait mettre en œuvre l'accord de Paris et si on voulait faire en sorte que la politique de notre pays, la politique économique, industrielle, s'adapte aux contraintes qui sont vraiment devant nous, c'est-à-dire ce que vient de dire le secrétaire général de l'ONU, on a 2 ans pour réagir, sinon on va perdre le contrôle, il faudrait radicalement transformer notre politique. C'est-à-dire qu'on peut pas continuer à dire qu'on veut faire de la croissance en vendant des Airbus ou en continuant à extraire des mines, à fabriquer des objets à tout crin et à essayer de remporter des marchés. Il faut se poser des questions qui sont profondément dérangeantes aujourd'hui et qu'aucun gouvernement n'a vraiment le courage de se poser.
Nicolas Hulot, quand il a démissionné, il a aussi appelé à un sursaut citoyen et quelques jours après, le 8 septembre, pour la Journée mondiale du climat, il y avait quand même 100 000 personnes dans les rues en France, ce qui était inédit pour la France. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut s'organiser pour que les citoyens prennent les choses en main?
Ah bah j'ai publié un livre là,
que ça, d'ailleurs.
Au mois de mai dernier qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine, et toute la dernière partie de ce livre est consacrée à ça, à comment est-ce qu'on peut s'organiser. Il y a quelques semaines, il y a 15 jours, je crois, dans une interview, j'ai parlé de... Ben, finalement, on devrait faire un lobby citoyen, c'est-à-dire que on se plaint tout le temps que les lobbies ont un pouvoir démesuré pour orienter les politiques publiques. Je pense que si on était 1 million de personnes, 2 millions de personnes sur un certain nombre d'enjeux extrêmement forts à se manifester, à la fois en marchant dans la rue, à la fois en signant des pétitions, à la fois en écrivant à nos députés, je pense que ça aurait une incidence très importante. Et on le voit sur un certain nombre d'autres sujets. Là, il y a peu de temps, Fabrice Nicolino et l'ONG Génération Future ont lancé un appel. Nous voulons des coquelicots pour interdire les pesticides de synthèse face à, malheureusement, au désastre que ça provoque dans l'agriculture. Près de 200 000 personnes qui ont signé en 15 jours. On voit bien qu'il y a une espèce d'attente et de volonté des citoyens de participer au débat et d'avoir une influence et d'arrêter d'avoir le sentiment que les responsables politiques font un peu comme ils veulent, même si les citoyens ne veulent pas faire ça.
Dans l'actualité de la semaine, Cyril Dion, il y a aussi ces actions contre des boucheries et des abattoirs. On entendait le journal de 18h tout à l'heure. Des militants qui se présentent comme antispécistes sont allés protester contre l'abattage des animaux et le commerce de la viande. Alors, il y a eu cet incendie la nuit dernière, mais il y a eu aussi des actions contre des boucheries. Je propose d'écouter ce reportage qu'a réalisé Benjamin Illy. Il a suivi un groupe d'activistes, c'était samedi dernier, dans le 16e arrondissement de Paris.
Donc nous on va se concentrer sur ça, on va profiter jusqu'à 13h là où les boucheries ferment, donc pour en faire un maximum.
Il est 56.
Ça démarre
à 11h.
Partout en France.
C'est ça.
Ils sont trois.
Je m'appelle Alizée, 24 ans.
Moi c'est Vincent, 31 ans.
Du collectif Boucherie Abolition, c'est l'heure.
On y va et on va enfin pouvoir montrer les vraies victimes.
Vous êtes antispéciste, ça veut dire quoi?
C'est le spécisme, c'est une idéologie qui, comme quoi l'être humain est supérieur aux autres espèces. C'est similaire à la suprématie blanche, c'est une oppression comme le racisme ou le sexisme.
Ceux qui veulent vraiment des images filmées, vous répartir par commerce.
Beaucoup plus de journalistes que d'activistes aujourd'hui. Une volonté de médiatiser, évidente.
Les bouchers sont des terroristes alimentaires.
Nous sommes sur l'avenue de Versailles, 16e arrondissement.
Paris ne sera plus une boucherie.
L'action va démarrer.
La traite du zoocide doit être criminalisée, les boutiques du zoo low cost fermées.
Ils portent des t-shirts sur lesquels il est inscrit « Boucher n'est pas un métier ». D'une glacière.
C'est lui,
sorte.
Le symbole de la résistance.
Un cochon mort.
On leur lime les dents, on leur coupe la queue. Là, c'est un bébé, il a encore son cordon.
Alizée, l'activiste, est devant la boucherie. Dans les bras, elle a ce cochon.
C'est des connards de vegan.
C'est un client qui parle. Mangez quoi à midi?
Ça sera une bonne côte de bœuf.
L'anarchie, d'interdire aux gens de manger de la viande, c'est complètement ridicule.
On vous foutra la paix, je vous foutrai la paix aux animaux.
Est-ce que vous condamnez ces dégradations, ces vitrines abîmés, ces slogans tagués sur les murs?
Les seules dégradations, c'est celles qui sont faites sur les corps des personnes qui sont dans les vitrines.
Vous parlez des animaux, hein.
Voilà, c'est ça, les animaux qui sont des personnes aussi.
Et il y a vraiment une campagne de victimisation de ces commerçants.
Oh, ne touchez pas!
Non, mais je vais toucher, moi.
Voilà, le boucher qui sort, il repousse les activistes.
C'est quoi, violent, vous ne touchez pas?
Non, ça va mal finir.
Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour gagner ce combat?
Moi, personnellement, je me fixe une limite de pas de violence sur les êtres humains. C'est déjà arrivé pour les luttes antiracistes, les luttes féministes, etc. Il y a eu des peines de prison, donc s'il faut aller jusque-là, on ira jusque-là. Ouais.
D'accord, alors barrez-vous, dépêche-toi.
Voilà. Pour ce reportage signé Benjamin Illy, Cyril Dion, la viande est un meurtre, les animaux sont des personnes. Comment vous réagissez quand vous entendez ça?
J'ai des réactions mélangées. J'ai un beau-père boucher. Donc j'ai appris que c'était un terroriste alimentaire. J'ai été végétarien pendant des années, donc je me sens au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un vrai sujet philosophique sur notre relation aux animaux et la relation que notre espèce, l'espèce humaine, entretient avec l'ensemble des espèces vivantes. C'est-à-dire qu'on est, on a effectivement tenu pour acquis qu'on pouvait prendre tout l'espace sur cette planète. Et pas seulement manger des animaux, mais aussi détruire leur habitat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vit la 6e extinction de masse des espèces vivantes sur la planète. Pour autant, cette stratégie qui consiste à aller dire que des petits bouchers sont des terroristes alimentaires et aller, ou casser des vitres ou dégrader leur magasin me paraît pas être la stratégie la plus intelligente pour qu'on ait vraiment ce débat dans la société. Je vois bien qu'il y a des moments où il faut attirer l'attention et je vois bien qu'on l'a fait par exemple avec les faucheurs d'OGM à une époque, mais pour moi ça raconte plutôt que dans notre démocratie on manque d'espace comme celui-là, d'espace de concertation sur un certain nombre de sujets, et comme on manque de ces espaces-là, ça amène de la violence. Et moi, ma grande inquiétude, c'est que cette violence-là, elle se développe dans les années qui viennent, pas seulement sur la question des animaux, mais qu'elle se développe sur la question du climat, qu'on se mette à avoir, des sabotages d'infrastructures, de voies ferrées, de raffineries. Parce qu'à un moment, il y a un certain nombre de gens, d'activistes très, très engagés qui disent, ben, il y a rien d'autre à faire, on peut rien faire d'autre. Parce que, où est-ce qu'on est capable d'avoir cette conversation et, potentiellement d'orienter la politique de nos pays nulle part. Donc, bah, on passe par la violence.
Des activistes qui sont confrontés eux aussi à la violence. Hein. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps sur le contournement ouest de Strasbourg. On a même vu une députée européenne qui...
Karima Deli.
Qui a été... je ne sais pas si elle s'est évanouie, mais presque. Des gaz lacrymogènes.
Elle s'est vraiment évanouie parce qu'elle a été complètement gazée. On a vu aussi ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'y suis allé il y a quelques semaines. Et on a vraiment du mal à comprendre pourquoi on a un déploiement de 2500 gendarmes avec des véhicules blindés. Enfin, quand on voit effectivement qui habite à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, là, je suis allé voir un paysan qui fait de la permaculture. Des gens qui sont pas... Je veux bien, il y avait sans doute des personnes qui étaient violentes, dangereuses, etc. Mais enfin, qui étaient pas très nombreuses. Et ça ne méritait absolument pas ça. Et encore une fois... C'est le signe qu'on n'a pas d'espace pour avoir ce dialogue-là. Ces gens-là, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, disent aujourd'hui « il faut arrêter d'artificialiser les sols », comme pour Strasbourg, et c'est le cas. Je veux dire, on sait aujourd'hui qu'il faut des espaces pour que la vie sauvage puisse continuer à vivre. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour en parler ?
Alors
à quel endroit ?
Vous posez ces questions dans le fameux petit manuel de résistance contemporaine qui est publié chez Actes Sud, au domaine du possible, Cyril Dion. Et c'est cette grande question, comment est-ce qu'on passe de l'échelle individuelle à l'échelle collective ? Parce que le collectif, c'est quand même souvent le politique, au sens noble du terme. Pourquoi ne pas poser la question de l'engagement politique ?
En fait, on a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que aujourd'hui un responsable politique, même très bien intentionné, on l'a vu avec Nicolas Hulot, a relativement peu de pouvoir pour transformer la société. Parce qu'il s'inscrit dans un système qui continue à fonctionner sur la même idéologie, qui est cette idéologie ultralibérale, consumériste, qui a fait de la croissance économique matérielle et extractiviste une forme d'alpha et d'oméga.
Il y a des politiques qui posent la question de ce modèle et qui le remettent en cause. Hein.
Absolument, mais
ça peut être un programme.
Là, on voit que Nicolas Hulot se retrouve dans un gouvernement où c'est très difficile pour lui d'avoir une véritable action sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand à côté de ça, comme je le disais tout à l'heure, on continue à essayer de vendre des Airbus, on continue à essayer de développer des activités commerciales qui sont extraordinairement polluantes et émettrices, parce qu'il nous faut de la croissance. Donc, on a besoin de transformer à la fois le récit qui sous-tend finalement notre modèle de société, d'arrêter de se dire, ben oui, finalement, il nous faut de la croissance, il nous faut de la richesse matérielle, toujours plus de confort, toujours plus de consommation pour être heureux, et de déporter finalement notre idéal politique sur d'autres objectifs. Faire en sorte que chacun puisse se nourrir sur cette planète, faire en sorte que chacun puisse s'épanouir, trouver finalement la ressource pour nourrir tout le monde, pour avoir de l'eau potable, pour avoir un environnement sain. Enfin bon, bref, des choses qui sont des portes ouvertes. Donc pour moi, c'est vraiment une refondation de notre modèle démocratique qui est nécessaire et qui a besoin de se faire par étapes. Et moi, je plaide notamment pour aller vers une forme d'équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe, comme on peut le connaître par exemple en Suisse, où on a des initiatives populaires, c'est-à-dire si 100 000 Suisses se mettent ensemble pour dire, ben voilà, nous on pense que ce sujet-là, il est très important et qui devrait déclencher une votation, donc l'équivalent d'un référendum, eh ben c'est possible. Donc aujourd'hui, nous, ça n'existe pas en France. Pourtant, sur un certain nombre de sujets, sur les sujets de l'agriculture biologique, des pesticides, du plastique, on voit que culturellement, c'est en train de changer, beaucoup. Que si demain, on était capable de faire un référendum, par exemple, sur est-ce que vous voulez continuer à avoir des objets en plastique comme cette bouteille d'eau...
On est désolé, hein, vous avez donné une bouteille en plastique, vraiment, on aurait dû vous apporter un gobelet. Hein.
Exactement, à usage unique, des pailles, des couverts en plastique, est-ce qu'on continue à faire ça ? Je suis quasiment certain que ça passerait, que la majorité des Français voteraient non. Donc, comme on n'a pas la mécanique institutionnelle pour le faire, moi je plaide, comme je disais tout à l'heure, pour construire une sorte de lobby citoyen qui nous permette de mobiliser énormément de citoyens pour, sur des objectifs précis, comme celui-là par exemple, comme d'autres objectifs sur les pesticides, pouvoir nous exprimer en masse et pouvoir orienter les politiques publiques.
Bien précis, hein. Ça j'ai compris ça aussi, vous avez besoin d'un récit. Vous publiez aussi, Cyril Dion, le chant des colibris, toujours aux éditions Actes Sud. Alors ça, c'est un recueil de photos prises lors des concerts qui ont eu lieu l'an dernier, lors de la tournée des chanteurs qui soutiennent votre mouvement. Les photos sont d'une certaine Fanny Dion.
Ben oui, qui est ma chérie depuis 20 ans, qui est photographe et qui est une photographe que je vous dirais que je suis pas objectif, mais pour moi de grand talent et qui est spécialisée dans les photos de scène et qui a vécu avec nous dans cette tournée qu'on a fait avec Alain Souchon, Isia, Arthur H, Albin de la Simone, Dominica et Émilie Loiseau.
Émilie Loiseau, merci beaucoup, Cyril Dion. Émilie Loiseau, voilà, vous m'avez fait ma transition, l'autre bout du monde.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais. Alors à l'autre bout du monde.
Servageant. Voilà, Émilie Loiseau sur France Inter, programmation musicale signée Djoubaka, je le précise. Cyril Dion, on va parler un petit peu de vous quand même, on fait toujours ça dans cette émission.
C'est
bah
très
oui.
Hein.
Bah si, 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 vous avez 40 ans, vous êtes né dans la région parisienne, dans une famille, qu'est-ce qu'on peut dire, une famille aisée.
Oh bah oui, moi je
un grand-père général, famille, un père banquier.
Dans une famille bourgeoise, oui, c'est sûr.
Une famille catholique.
Mes parents étaient plus si catholiques que ça, mais dans un environnement en tout cas qui l'était, oui. Moi j'étais enfant de cœur jusqu'à 15 ans, oui.
J'ai même lu quelque part, vous avez dit, parfois j'ai eu peur que Dieu m'appelle. Si vous avez dit ça.
Mais j'ai fait en fait ma crise de foi quand j'étais plus jeune. Alors maintenant, je suis pas du tout, je considère plus du tout avoir une religion. Mais à l'époque, ça m'impressionnait beaucoup cette idée que Dieu appelait des gens. Donc moi je me disais, oh, alors si Dieu peut appeler des gens, moi j'ai hyper la trouille qui m'appelle parce que j'ai pas du tout envie d'être moine ou prêtre ou je sais pas quoi.
Vous vivez à Dreux. Avec votre chérie
et mes enfants
et vos deux enfants, une maison avec un jardin. Ne pas vivre à Paris, c'est un choix de vie.
Oui, c'est un choix qu'on a fait. On est parti de Paris quand on a commencé à avoir des enfants, justement, Parce qu'on vivait dans le 18e, que c'était très très cher, qu'on avait un espace tout petit, que élever nos enfants justement dans beaucoup de pollution, très peu d'espace vert, ça nous paraissait pas le meilleur choix qui soit. Et voilà, donc maintenant on a un chouette jardin potager, on composte, les enfants peuvent passer pas mal de temps dehors. L'idée de sortir les enfants, ça c'était un truc avec lequel on avait du mal. Il faut sortir les enfants, comme si on allait sortir le chien, quoi.
Alors, vous avez suivi des cours de théâtre, Cyril Dion, vous avez même été comédien. Puis j'ai vu que vous avez une formation en réflexologie plantaire. Je me suis dit, ça, c'est pas la voie royale pour faire des documentaires, mais bon, c'est comme ça. Vous êtes beaucoup intéressé au conflit israélo-palestinien aussi.
Oui, en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une fondation qui s'appelle Homme de Parole, avec laquelle j'ai organisé un congrès israélo-palestinien en 2003, et ensuite le premier et deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. Notre idée était de... Donc c'était dirigé par un homme qui s'appelle Alain Michel, qui avait fait de l'humanitaire pendant 20 ans, et qui avait l'impression d'être un peu au bout de la chaîne, c'est-à-dire d'être comme un médecin qui soignerait des personnes qui boivent de l'eau contaminée sans jamais aller dépolluer l'eau du puits. Donc il se disait peut-être qu'il faudrait agir en amont des conflits pour essayer d'éviter qu'ils dégénèrent ou même qu'ils existent. Et ça a été une expérience assez incroyable, qui m'a notamment inspiré
un roman.
Un roman, ouais.
Imago, hein, c'est ça. Parce que vous faites des tas de choses, Cyril Dion. Vous avez, alors faut-il le rappeler, cofondé avec Pierre Rabhi le mouvement Colibri. Ça, c'était en 2006-2007. Vous faites vraiment des tas de choses. Cinéma, les chansons, la tournée des chanteurs, etc. C'est pas chronophage, mais ça ?
Si. J'ai participé aussi à créer un magazine qui s'appelle Kaizen, qui est un magazine sur les initiatives qui participent à transformer la société. J'ai créé avec Jean-Paul Capitani chez Actes Sud la collection Domaine du Possible, pareil, qui essaye de donner la parole à des personnes qui transforment la société. Bah, en fait, moi, je me suis fait une promesse quand j'avais 16 ans, qui était de faire des choses qui me passionnent et qui ont du sens pour moi, et de jamais justement rentrer dans cette espèce d'esclavage moderne qui consiste à aller travailler pour de l'argent, en fait. Je raconte toujours cette petite phrase que Colin Serrault prononce parfois, donc que certaines personnes trouvent excessive, mais qui moi me fait rire et en même temps m'interroge. Elle dit le salariat c'est 5 jours de prostitution et 2 jours de réanimation, et qui est une façon de dire finalement on est parfois condamné à vendre notre créativité, notre temps, notre énergie, notre matière grise pour un salaire, et finalement à faire toute notre vie quelque chose qui a pas forcément profondément du sens pour nous. Donc moi j'ai eu la chance de vivre et de naître effectivement dans une famille qui était relativement privilégiée, ce qui m'a pas empêché, parce que mon père a jamais voulu m'aider plus que de raison, donc il m'a toujours... J'ai commencé à travailler à 18 ans, je travaillais 30 heures par semaine en même temps que je faisais mes études, 30 heures par semaine tout le temps, donc j'étais à la fois vendeur de jeans, coursier, standardiste chez Renault Assistance, manutentionnaire dans les chais à Bercy, peintre en bâtiment... Donc j'ai vu aussi ce que c'était d'être obligé de travailler pour gagner sa vie en faisant quelque chose qui donne pas forcément envie de se lever tous les matins. Donc à un moment je me suis dit quoi qu'il en coûte, même si c'est dur, même si ça prend du temps, ça prendra plein de chemins, mais je veux essayer de faire des choses qui sont utiles et qui me rendent heureux.
Et ben c'est le cas aujourd'hui. Alors Cyril Dion, on a dans cette émission une rubrique qui s'appelle Les Bonnes Ondes. Je suis sûre que ça va vous plaire parce que c'est chaque semaine des initiatives positives, des initiatives citoyennes. On va voir ça avec Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, comme ça, on fait les poubelles.
Et on fait les poubelles parce que d'abord dans les poubelles, on jette n'importe quoi et notamment un nombre incalculable de fruits et légumes trop gros, trop minces, tachés, troués, écrasés, déformés, trop mûrs. Près de la moitié finissent à la benne ou dans le vide ordure. Halte au délit de sale gueule. Deux jeunes femmes se sont lancées il y a un an dans une immense opération de sauvetage. Elles récupèrent tous ces fruits et légumes trop moches et donc non consommés pour en faire des confitures. L'idée est géniale, d'autant que vous allez voir, elles ne sauvent pas que des pommes et des poires.
Le nom de cette marque de confiture est assez bien trouvé. Confiture rebelle. En deux mots, des fruits qui n'ont pas dit leur dernier mot. Alors vous avez assisté à leur fabrication à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.
Près d'une tonne de fruits et légumes arrivent ici toutes les semaines. Trop moche ? Ok, ces femmes s'en occupent.
Quand tu vois que t'es à la fin de tes figues, tu mets les poires dans l'eau, t'attends pas.
Elle, c'est Laurence, c'est la chef d'équipe.
Tu peux
enchaîner sur les pois.
Et c'est parti pour la visite.
Les fruits arrivent avec Ali en camion, là. On fait le tri. Les oranges dans une cagette, les figues dans une cagette, les melons dans une cagette. On lave les fruits. Après, on passe à la découpe.
Là où sont les femmes, là, c'est
là
ce qu'elles font.
Là où sont les filles, ouais. Là, elles sont en train de découper des pêches. On jette encore pas mal, mais tant pis, on a récupéré quand même des fruits qui seraient tous partis à la poubelle. Et on fait des bonnes confitures avec.
Quel est votre prénom, madame ?
Naïma.
Qu'est-ce que vous faites, là ?
Donc là, on a des nectarines. On essaye de récupérer le plus possible.
Ça sent bon ?
Oui, ça sent très bon, même.
On est où, Naïma ?
Ils veulent pas finir.
Des pêches ?
Ah oui.
On en a beaucoup.
Comment vous êtes-vous retrouvée là, Naïma ?
Je me suis orientée vers la mission locale et c'est eux qui m'ont orientée ici.
Et quand on vous a proposé de faire des confitures, quelle était votre réaction ?
Ben moi, je voulais découvrir. Je ne connaissais pas, comme on dit, c'est des métiers perdus. C'est, même moi, quand j'ai dit ça à mon entourage, je me dis « Ah bon, ça existe toujours ?»
Et vous avez un grand sourire.
Ben, ça fait un plaisir de parler de ce qu'on fait. Parce que les gens ne voient pas, ils disent confiture, mais ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Il faut expliquer le mot rebelle derrière.
Ça tombe bien, voilà Adeline Girard.
Comment ça va ?
Je viens juste de débuter, là, je viens de commencer les fraises.
C'est elle qui a lancé le concept et voici la recette de ses pots de confiture.
Il y a presque un fruit sur deux sur toute la chaîne qui va être gaspillé. Déjà, il y a au niveau des producteurs, quand ils savent que les fruits sont hors calibre, ils ne vont pas les envoyer. Ensuite, il y a du transport. Ensuite, il y a au niveau des supermarchés, quand il y a des fruits et légumes qui s'abîment, ils sont retirés par les chefs de rayon. Ou sinon, ceux qui sont restés, en fait, c'est les consommateurs qui n'en veulent pas ou les consommateurs qui ne cuisinent pas ce qu'il y a dans le frigo. Nous, on les récupère et on les sauve.
Et les confitures, je présume, les goûts selon la colère ?
Alors, c'est ça. Et selon la créativité de notre chef, on a presque 100 recettes. On fait aussi bien des fruits seuls ou des fruits en duo, donc banane orange, pomme orange épice. On fait aussi des recettes avec des légumes. Du coup, on peut sauver des courgettes, des carottes.
Des confitures aux courgettes ?
Exactement. Elles sont plus rares, mais oui.
Une fois, j'ai fait banane, kiwi, cardamone. Bah, c'est excellent.
J'ai vu potiron ou poireau ?
Potiron, ouais. Orange potiron. Pas mal. Mais des fois, ça marche pas. L'autre fois, on a fait pastèque, on a trouvé que c'était pas terrible. Regarde, là, on est à 89,4, c'est impeccable.
L'idée, c'est de sauver ces fruits et après, c'est de donner une seconde chance aussi à des personnes qui ont eu des accidents de parcours aussi de vie qui peuvent arriver à n'importe qui. Et donc là, quand voilà, il y a une première personne qui a signé son contrat, elle était émue. C'est ça qui nous donne envie de continuer.
Naïma, est-ce qu'on peut dire que Rebelle vous a aussi récupéré comme les fruits ?
Oui, ça a été très très difficile pour moi. Je me suis battue, on va dire, un an pour trouver du travail, pour tomber ici. Il n'y a pas que de la confiture, il y a un accompagnement social et professionnel. Et c'est ça qui est super bien aussi.
Quelle est votre confiture préférée que vous avez goûtée ?
Fruits rouges.
Confiture que Naïma pourra retrouver dans les enseignes où les fruits rouges ont frôlé la benne. La boucle est bouclée.
L'idée, c'est de faire vraiment un peu un retour à l'envoyeur.
D'où le nom de Rebelle.
C'est ça, Rebelle. Bah, c'est nos fruits qui sont de nouveau beaux, qu'on rend beaux grâce à ces confitures. Puis on est aussi un peu rebelle de proposer un produit anti-gaspi aux grandes surfaces, de là où on a récupéré la matière première.
Reportage Sandrine Houdin. Merci Sandrine. Confiture Rebelle a permis de sauver 30 tonnes de fruits et légumes et puis a donné du travail à une dizaine de personnes. Toutes les infos sur confiturerebelle.fr. C'est pour vous ça, Cyril.
Bah oui, c'est super. Le gaspillage alimentaire, c'est une des problématiques les plus importantes. On a publié un bouquin d'un Américain qui s'appelle Paul Hawken qui a sorti 80 solutions de la plus efficace à la moins efficace pour lutter contre le changement climatique et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je crois que c'est la solution numéro 4.
Cyril Dion, vous faites des tas de choses, on l'a dit, les films, les livres, etc. Mais vous écrivez aussi des poèmes depuis longtemps et vous allez nous faire un petit plaisir. Vous allez nous en lire un pour terminer cette première heure.
C'est un poème qui est tiré d'un recueil qui s'appelle « Assis sur le fil » qui a été publié aux éditions de la Table Ronde en 2014.
On vous écoute.
Comme il est doux de naître, où les pétales et les brins, où les feuilles et les roches, où les flammes et les racines, un jour prirent forme, se déplièrent, sans plainte ni ombre à leur destinée. Où le nord n'étonnait guère, pas plus que la sève ou le commencement des neiges.
C'est superbe, Cyril Dion.
Oh, ben vous êtes gentil.
Merci beaucoup. Merci parce que c'est vrai que la poésie en France, j'ai l'impression qu'elle elle n'a pas sa place. La place qu'elle mériterait, on n'entend pas suffisamment.
Elle a plus sa place parce qu'elle l'a eue. Elle l'a eue il y a longtemps. Mais il y a encore des pays, et notamment dans Imago, dans le roman, je parle beaucoup de Mahmoud Darwish, qui par exemple continue à être une voix qui incarne au Moyen-Orient, pas seulement une démarche artistique, mais véritablement un souffle politique, sensible, qui incarne la culture de son pays, de sa région. Et, Et on en a besoin. On a eu besoin de René Char, on a eu besoin de Pablo Neruda, on a eu besoin de tous ces poètes qui ont participé à nous ramener à quelque chose de profondément humain, de profondément sensible, qui est fondamental dans notre vie de tous les jours. On peut pas en rester simplement à des choses froides et à des faits rationnels.
Et ça fait
nous sommes des êtres profondément sensibles et irrationnels.
Ça fait partie du combat général pour l'avenir de cette planète.
Mais pour moi, oui. Enfin, je veux dire, la crise qu'on vit est une crise qui est profondément spirituelle au sens d'une crise de sens. Donc, pour retrouver du sens, pour retrouver une forme d'humanité, on a besoin de l'art et on a besoin de la poésie, c'est sûr. Enfin, moi, je le crois, en tout cas.
Alors, il y a votre livre de poèmes, Cyril Dion. Sinon, je cite évidemment le petit manuel de résistance contemporaine. C'est donc chez Actes Sud. C'est très intéressant et on va continuer à en parler tout à l'heure dans Le Téléphone Sonne. Le Chant des Colibris, toujours chez Actes Sud. Il sort quand, ce livre-là ?
Il sort début octobre.
Début octobre, et puis il y a évidemment toujours demain, le livre et le film. Mmh. Et je passe sur les sites internet, parce qu'il y a aussi des tas de choses qui accompagnent vos initiatives. En tout cas, vous restez avec nous, Cyril Dion, car après le journal de 19h, on passera aux travaux pratiques, si on peut dire, avec les auditeurs et les auditrices de France Inter. On posera la question de l'engagement citoyen pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire ce que vous faites à votre échelle, à vous, si vous participez à des jardins partagés, à des AMAP, si vous faites de la permaculture, n'hésitez pas. Appelez-nous au 01 45 24 7000 pour nous dire ce que vous faites. Appelez-nous aussi si vous ne faites rien et que vous n'y croyez pas, ce sera intéressant. Isabelle Delannoy, auteure de L'économie symbiotique, nous rejoindra également pour ce téléphone sonne. Le numéro est toujours le même, le 01 45 24 7000.